recevable de la requête du député Albert Fabrice Puella. Le conseil justifie sa décision par le fait que le requérant n'a pas respecté les procédures nécessaires. Le député Fabrice Puella a accusé le bureau de la Chambre basse du Parlement de violer l'article 139 de son règlement intérieur. Cet article impose au président de l'Assemblée de déposer le rapport financier dans le délai fixé par la loi, ce qui n'était pas fait selon lui. Une accusation battue en brèche par la défense de la présidente de cet organe, évoquant le défaut des qualités d'intérêt dans le chef du requérant. Ce dernier dit cependant réfléchir avec son conseil sur d'autres moyens à développer. Quelle analyse faire de ce verdict? Que pensez-vous de l'idée du député national Fabrice Puella de poursuivre son action contre le bureau de l'Assemblée nationale? Nous en parlons ce soir avec lui-même, Albert Fabrice Puella, député national élu de la ville de Matadi au Congo central. Il est président du parti politique Action du Rassemblement pour la Reconstruction et l'Édification nationale. Il est également coordonnateur adjoint de la dynamique pour la vérité des urnes. Albert Fabrice Puella, bonsoir.
Bonsoir.
Lucas Kasongo, député national et secrétaire permanent adjoint du parti politique PPRD. Il est aussi président de la commission PAJ à l'Assemblée nationale. Lucas Kasongo, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
Et le professeur Bob Kiamamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur Bob Kiamamba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditrices et auditeurs de Radio Capi.
Merci de nous suivre à Matadi, dans la province du Congo central, sous la 102.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, le Conseil d'État a déclaré irrécevable la requête du député national Fabrice Puella qui sollicitait la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale pour violation de l'article 139 de son règlement intérieur. Cet article recommande le dépôt du rapport financier de cet organe délibérant dans le délai de la loi. Les détails avec vous, Jeff Ngoy.
Dans son ordonnance, le Conseil d'État justifie sa décision par le fait que la requête de Fabrice Puella n'a pas obéi aux conditions de sa loi organique. Le député n'a pas annexé à sa requête la décision administrative attaquée. Il n'a pas non plus intérêt démontrant le préjudice subi. Le Conseil devrait simplement se déclarer incompétent pour un acte administratif interne à l'Assemblée nationale, nous confie un haut magistrat. À travers cette procédure, l'élu de Matadi reprochait au bureau Mabunda de n'avoir pas présenté le rapport financier de l'exercice précédent. Une accusation battue en brèche par la défense de la présidente de cet organe la semaine dernière lors des plaidoiries, évoquant le défaut de qualité et l'intérêt dans le chef du requérant. Ce dernier dit cependant qu'il réfléchit avec son conseil sur d'autres moyens à développer. Mais au Conseil d'État, le dossier est définitivement clos, car les décisions de cette juridiction rendues en dernier ressort sont immédiatement exécutoires et opposables à tous.
Merci Jeff Ngoy pour ces détails. Albert Fabrice Puella, je rappelle que vous êtes député national élu de la ville de Matadi au Congo central, président du parti politique Action du Rassemblement pour la Reconstruction et l'Édification nationale, également coordonnateur adjoint de la dynamique pour la vérité des urnes. Vous avez introduit une requête pour demander la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Albert Fabrice Puella, le Conseil d'État a déclaré irrecevable votre requête. Comment vous avez accueilli cette décision?
Merci beaucoup. Je tiens à saluer le professeur Bob Kabamba, d'où il est, également mon collègue et ami Lucas Kasongo. Je pense que dans le cadre de cet échange, c'est un échange citoyen, un échange républicain dans une affaire qui n'est pas personnelle, mais une affaire d'État pour la bonne marche des institutions. Vous avez bien dit, nous avons saisi le Conseil d'État. Il faut faire la distinction entre l'action principale en annulation de la décision implicite du bureau de refuser de démissionner et la requête un référé et que la décision qui a été rendue l'avant-hier, c'est sur la requête en référé suspension. Ce n'est donc le juge administratif n'a donc pas vidé sa saisine. C'est très important de l'avoir à l'esprit. Lorsque vous dites que l'honorable Paul entend poursuivre son action, c'est normal puisque le fond de l'affaire n'a pas encore été vidé.
Effectivement, est-ce qu'il faut comprendre par là que le dossier n'est pas définitivement clos?
Non, le dossier n'est pas clos, bien au contraire. Parce que les référés, c'est pour des mesures conservatoires. Les juges des référés n'apprécient que, comme on le dit en droit, que prima facie. C'est-à-dire, il doit voir s'il y a une apparence de droit ou s'il y a urgence. À ce niveau-là qu'il apprécie, mais il ne va pas dans le fond, puisque vous avez constaté, c'est un seul juge, sans même l'organe de la loi, c'est-à-dire sans les ministères publics. Mais dans le fond, c'est un collège qui s'est réuni avec la présence du ministère public. C'est alors qu'on examine le fond. Ce qui a été fait, c'est l'action, si on peut dire, avant du droit, lorsqu'on sollicite des mesures conservatoires, il y a les référés suspension, comme les référés liberté et d'autres référés. Et nous, c'était les référés suspension. Et le juge a estimé que ces référés étaient jugés irrécevables, mais n'a pas dit que l'action principale était irrécevable.
Oui, mais comment vous avez accueilli cette décision du juge?
C'est à deux niveaux. En tant que praticien du droit, je dois m'incliner devant les décisions de justice, j'ai prêté serment pour cela, mais dans le cas d'espèce, c'est moi le requérant, j'ai estimé que le juge est passé à côté de son analyse dans la mesure où il ne devait statuer que sur l'apparence de droit et l'urgence, et il s'arrête là, et il ne pouvait pas aller jusqu'à préjuger quant au fond du dossier, mais nous l'avons accueilli encore que nous savons que le dossier demeure et que la vraie bataille, c'est au niveau du fond.
On vous reproche de n'avoir pas obéi aux conditions de votre loi organique. Vous n'avez pas annexé non plus à votre requête la décision administrative attaquée. Vous n'avez pas démontré le préjudice subi.
Merci beaucoup. Je pense que c'est important puisque votre émission a toujours un caractère pédagogique.
Voilà.
Oui, voilà. C'est important qu'on sache qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons, c'est vrai, un règlement intérieur qui a valeur de loi puisque sa validité a été appréciée par la Cour constitutionnelle. Lorsque nous écrivions, depuis le mois de juillet, in tempore non suspecto, nous avons écrit au bureau de l'Assemblée nationale, à Madame la Présidente. Nous n'avons pas réservé à un quelconque membre du bureau. Madame la Présidente, pour qui j'ai beaucoup de respect, ne m'a pas répondu. Au lieu de me répondre, c'est la questeur qui m'a répondu, alors que nous, notre lettre, nous avons écrit également au comité de sages, parce que contrairement à ce que plusieurs disent, que nous ne sommes pas passés par le comité de sages avait été saisi du même dossier, mais le comité de sages ne nous avait jamais invités. Ils nous ont invités après que la haute juridiction a été saisie. Donc, nous pensons avoir respecté toutes les procédures. Et puis, lorsque nous écrivons au bureau de l'Assemblée nationale en leur demandant de démissionner, pas parce que moi je leur demande, mais les règlements intérieurs les déclarent démissionnaires, ils sont réputés démissionnaires, ce n'est pas moi. Et lorsqu'on me répond en disant « nous acquisons réception de votre correspondance, mais le rapport de la gestion financière a été déposé, nous ne pouvons pas démissionner ». Lorsqu'on vous répond dans ce sens-là, est-ce qu'il n'y a pas une décision là-dedans? Puisque vous vous demandez qu'on démissionne, on vous répond. L'acte administratif, la décision administrative n'a pas une forme précise. Lorsqu'on vous répond, il y a ce qu'on appelle l'instrumentum, la lettre qui dit c'est l'accusé de réception, mais il y a le négociant, le contenu, c'est un refus de démissionner qui se trouve dedans. Parce qu'en droit administratif, le refus de décider, c'est même déjà une décision. Alors, qu'on dise que non, on n'a pas annexé. Mais la décision, c'est bel et bien cette correspondance de Madame la questeur qui écrivait au nom du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'on a tout faux de penser qu'il n'y avait pas une quelconque décision. La décision était bel et bien là. La décision est contenue dans la correspondance de Madame la questeur de l'Assemblée nationale.
Albert Fabrice Puella, je rappelle, vous avez accusé le bureau de la Chambre basse du Parlement de violer l'article 139 de son règlement intérieur, cet article qui impose au président de l'Assemblée de déposer le rapport financier dans le délai fixé par la loi, c'est qu'il n'a pas été fait selon vous. Vous avez même sollicité le paiement de 250 000 dollars à titre des dommages causés au peuple congolais. Quel préjudice le peuple congolais a subi?
Merci beaucoup. Heureusement que vous êtes revenu là-dedans. Lorsque vous êtes dirigé par une institution dont les textes sont violés, vous êtes républicain et vous allez encore poser la question du préjudice qui dit nous sommes dans un état. L'article premier de la Constitution dit clairement que la République démocratique du Congo c'est un état de droit. Lorsque délibérément on viole les textes qui régissent la République, vous allez dire, vous allez poser des questions sur le préjudice. Le préjudice est énorme. Nous avons besoin d'être dirigés par une république avec des dirigeants dignes, avec respectant les devoirs de redevabilité, un devoir sacro-saint dans toute république, dans tout état de droit. Alors on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas un quelconque préjudice. Le préjudice est réel. Et c'est ce que nous avons eu à démontrer. On ne peut pas nous dire qu'il n'y avait pas de préjudice. Et nous avons saisi les conseils, effectivement, pour violation de l'article 139. L'article 139 ne dit pas déposer les rapports. Non. Présenter, il est clair, m'a dit, à la fin de chaque exercice budgétaire, les bureaux présentent à l'Assemblée plénière. Ce qui suppose un débat. La partie bureau de l'Assemblée nationale était en défaut de nous prouver qu'il y a eu, de nous démontrer qu'il y a eu plénière au cours de laquelle la question était prévue à l'ordre du jour, qu'il y a eu une présentation et qu'il y a eu un débat. Il ne faut pas confondre. Nous n'avons pas demandé 250 000 dollars comme préjudice que nous avons. Non. Et c'est là qui est grave parce que plusieurs praticiens du droit confondent. Ce sont des mesures d'astreinte que nous avons postulées. Parce que nous avons souscrit, nous avons postulé la suspension de la mesure en attendant l'examen au fond. Mais le droit prévoit des mesures d'astreinte. Il ne faut pas confondre l'astreinte à des dommages et intérêts. Je pense que le professeur Kabamba qui me suit et pourra en parler, tout comme s'il est honnête, l'honorable Lika pourra vous parler des astreintes prévues en droit administratif qui ne sont pas à confondre, les astreintes qui ne sont pas à confondre avec des dommages et intérêts. C'est dommage parce que des collègues, des confrères à la barre ont eu à confondre les mesures d'astreinte et les dommages et intérêts.
Albert Fabrice Puella, selon certaines sources à l'Assemblée nationale, le rapport de la commission spéciale sur la gestion financière du bureau a été approuvé au cours d'une plénière en date du 7 juillet de l'année en cours.
Vous dites bien le 7 juillet. Voilà en fait l'aveu des responsabilités. Il ne faut pas confondre l'article 139, l'article 138 d'abord et suivant parle de ce qui concerne les finances de l'Assemblée nationale. Et l'article 139 dit clairement à la fin de l'exercice budgétaire, les bureaux présentent les rapports dans les 30 jours du début de la session de mars. C'est sur base de ces rapports qu'une commission spéciale sera mise en place pour examiner sous forme d'audit. Et c'est, il n'y a eu effectivement, j'étais, contrairement à ce que d'autres ont prétendu, j'étais bel et bien en plénière, et vous dites bien c'est le 7, c'est largement après, encore que la session finit toujours au mois de juin, à cause de l'état d'urgence que nous sommes partis au mois de juillet. Vous dites bien c'est au mois de juillet que c'était adopté, mais la session était supposée finir le 15 juin. Mais pourquoi on a attendu tout ce temps-là pour débattre de ces rapports de la commission spéciale? Voilà l'aveu de responsabilité. Nous voulons un pays dirigé par des hommes honnêtes, ayant le souci de bien faire les choses, dirigeant la République avec les règles de l'art. Lorsqu'on escamote les rapports financiers, l'Assemblée nationale c'est une grande machine avec nous gérons les finances de l'État. Et plusieurs ont confondu en pensant que la présidente de l'Assemblée nationale n'est qu'autorité politique, n'est qu'autorité législative, encore que c'est l'Assemblée nationale dans son ensemble. Mais elle est aussi autorité administrative. Elle est également autorité administrative lorsqu'elle prend des décisions, des actes administratifs dans son bureau et qu'elle signe même des contrats administratifs.
Merci.
C'est dans ce cadre-là que la décision prise par le bureau a été attaqué.
Lucien Kiasongo, député national et secrétaire permanent adjoint du PPRD. Vous êtes aussi président de la commission PHI à l'Assemblée. Comment vous analysez ce verdict rendu par le Conseil d'État?
Merci madame. Nous saluons les auditeurs qui nous suivent en ce moment et sans oublier le prof Bob Kabamba et mon collègue Fabrice Fouella. Comme vous le savez madame, et tout juriste animé de bonne foi s'est posé mille et une questions sur les motivations qui caractérisaient notre collègue Fabrice Fouella en allant saisir le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative de la République démocratique du Congo, sur un objet qui ne relève pas de la compétence de cette haute juridiction administrative. Et la décision qui a été prise hier n'était que la logique même de la justice administrative de la République démocratique du Congo. Et nous, nous nous posions chaque fois des questions. Parce que les mobiles, les camarades Fabrice, les collègues Fabrice, a estimé que le bureau de l'Assemblée nationale n'avait pas présenté son rapport de gestion financière à la plénière de l'Assemblée nationale et que, selon notre règlement, lorsque le bureau n'arrive pas à présenter ses rapports et après le délai fixé dans le règlement, le bureau, la plénière va constater cet état des choses pour demander au bureau de démissionner. Mais malheureusement, à ce que je sache, j'ai participé à toute la plénière de la session de mars 2020 et même aux plénières après la prorogation qui a été motivée par l'état d'urgence que le président de la République avait décrété. Et c'est vrai, la loi prévoit le délai du dépôt, mais la loi ne prévoit pas le délai de l'examen. Les bureaux avaient déposé les rapports dans le délai et ce rapport était confié à une commission spéciale dont le membre provient de tous les groupes parlementaires qui composent l'Assemblée nationale. Et les groupes parlementaires proviennent de partis et regroupements de la majorité parlementaire, de partis et regroupements de l'opposition parlementaire, ainsi que certains députés non inscrits. On délègue le membre pour aller constituer une commission, laquelle commission a pour mission d'examiner toutes les questions liées à la gestion de finances de l'Assemblée nationale. Ce qui avait été fait, la commission était présidée par l'ancien recteur de l'université de Kisangani, le prof Toengao, celui qui a présidé la commission spéciale, qui a travaillé pendant la période que vous connaissez vous-même, c'était pendant la période où on était dans l'état d'urgence, là où les services ne devraient pas fonctionner, parce que la commission ne devrait pas que se fier au rapport présenté par les bureaux de l'Assemblée nationale. La commission devait également entrer en contact avec les services financiers de l'Assemblée nationale pour comparer les chiffres, ce que les bureaux ont aperçu, comment ça a été reparti, et c'est ça le travail de la commission. Et pendant cette période, comme vous le savez madame, on était pendant l'état d'urgence, là où les services ne fonctionnaient pas comme il se doit, là où les députés ne devraient pas se réunir chaque jour, parce qu'il y avait toujours des suspicions de part et d'autre, il y a dans certains services là où il n'y avait qu'un service minimum. Alors que les documents ne sont pas gardés à un seul endroit, il y a plusieurs personnes qui interviennent dans la gestion des finances de l'Assemblée nationale. Et voilà pourquoi avec tout ce qu'il y avait, si bien que le bureau avait déposé son rapport dans le délai, mais la commission n'était pas en mesure de nous produire son rapport en plénière dans le délai parce qu'il y avait des pesanteurs. Et ce sont ces pesanteurs qui ont fait que la plénière puisse adopter ses rapports avec un retard. Et ce retard n'était pas lié au fait du bureau parce que le bureau avait déposé son rapport. C'est comme le dépôt du budget. On prévoit la période pendant laquelle la loi de finances de l'exercice suivant doit être déposée par le gouvernement. Mais si le gouvernement dépose dans le délai et que ça n'a pas été adopté, ce n'est pas le problème de celui qui a déposé, c'est le problème de celui qui devrait examiner. C'est ce que nous avons eu avec le rapport de l'Assemblée nationale. Le bureau a déposé son rapport dans le délai. Et c'est la commission qui n'a pas travaillé en toute urgence compte tenu de ces pesanteurs que je venais d'évoquer tout de suite. Donc, la commission est dans les possibilités d'entrer en contact avec tous les documents.
Donc,
dans
pour vous, Lucas Kiasongo, le bureau n'est pas responsable
qui venait après
de ce retard.
Semaines. Il y a les personnalités qui venaient après une semaine. Donc, ça a pris du temps. Mais en fin de compte, le rapport de la gestion de l'Assemblée nationale était adopté dans une plénière. Même les collègues Fabrice Fouella, que je respecte beaucoup, le sait très bien. Une lettre n'est pas une décision administrative qui devrait faire l'objet d'une requête auprès de la haute juridiction administrative de la République.
Merci Lucas. Voilà pourquoi
nous étions attentifs à ce qui s'est passé, nous qui nous posions plusieurs questions de la démarche de notre collègue et de l'issue de ce procès, nous savions pertinemment que la décision ne devait être que celle-là.
Merci Lucas Kasongo. Donc vous vous attendiez un peu à cette décision du Conseil d'État. Mais il y a cet auditeur, Maître Diallo, qui dit ceci: pour vice de procédure, la requête du député peut être assez vue irrécevable, mais cela ne veut pas dire que l'article 139 du règlement intérieur n'a pas été violé. Selon le même article, en cas de non-respect, le bureau est réputé démissionnaire. Dans la logique, ça devrait se régler en interne, ce qui est quasiment impossible vu le comportement de nos députés, qui sont très partisans. L'Assemblée nationale, qui est censée être le temple de la démocratie, ne doit pas être transformée en centre de violation des textes au nom de la majorité.
Il n'y avait pas de violation de texte, madame. Le bureau a déposé le rapport dans le délai et on a constitué une commission spéciale qui avait à son sein et le député de l'opposition et le député de la majorité parlementaire et le député non inscrit. Donc, ça signifie que ce n'est pas le problème de la majorité, c'est le problème de la logique. On a déposé les rapports dans le délai et on a pris du temps. C'est la commission qui a pris du temps pour examiner ces rapports. Vous savez, il ne suffisait pas seulement d'avoir les rapports. C'est un rapport de gestion. Il fallait confronter ces rapports avec les documents comptables qui étaient détenus par plusieurs personnes par l'administration de l'Assemblée nationale. Et pendant cette période, vous savez vous-même, il y a madame la COVID qui s'était improvisé et qui a tout gâché. C'est pour ça que même le fonctionnement de l'État, même le fonctionnement des services était perturbé et l'Assemblée nationale ne devrait pas être épargnée de cette perturbation-là.
Vous l'avez déjà dit.
Voilà,
merci beaucoup.
On
vous garde encore
malgré les conditions
dans cette émission. Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, vous êtes coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Voilà. Professeur, quelle est votre lecture de cette démarche du député Fabrice Puella de saisir le Conseil d'État pour demander la démission du bureau de l'Assemblée nationale pour avoir violé l'article 139 de son règlement intérieur?
Merci beaucoup, madame. Laissez-moi tout d'abord saluer donc les honorables Lucas Kasongo ainsi que les honorables Puella élus du bas du Congo central. Remercie aussi pour le débat qui est un débat qui permet justement de pouvoir un peu mettre en exergue toute une série quand même de fonctionnements au niveau, une série de mécanismes de fonctionnement au niveau des institutions. C'est que en introduction, ce qu'il faut dire, c'est que normalement, il y a, comme on le sait, séparation de pouvoirs entre pouvoir législatif, judiciaire et exécutif, mais là, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir collaboration, mais aussi contrôle entre les différents pouvoirs tels qu'ils sont établis par la Constitution. Spécifiquement, ce concernant le pouvoir législatif, on sait très bien un peu toute une série de mécanismes qui sont gérés directement par la Cour constitutionnelle, mais il y a aussi par rapport à des aspects qui sont des aspects administratifs qui peuvent relever de la juridiction administrative, notamment pour tout ce qui concerne, entre guillemets, le droit administratif tel qu'il est pratiqué à l'Assemblée. Néanmoins, ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une série de dispositions, normalement au niveau de l'Assemblée, qui concernent aussi bien le niveau politique que le niveau judiciaire. Alors, sur le niveau politique, il y a toute une série de mécanismes qui existent en termes de contrôle, en termes de mise en place des institutions, en termes de toute une série de fonctionnements de certaines commissions, etc., qui relève, on va dire, grosso modo, du contrôle politique, c'est-à-dire le politique s'autocontrôle lui-même. Mais par ailleurs, il y a aussi toute une série de dispositions qui concernent effectivement le droit judiciaire, principalement, ici on peut dire, par exemple, pour ce qui concerne le cas d'espèce, le droit administratif. Et donc, par rapport à l'article 139, il y a deux lectures qu'il faut vraiment bien avoir. Première lecture, c'est que, effectivement, s'il y a des dispositions comme ça qui sont mises en avant, qui ont déjà été établies, ça c'est pour les dispositions justement qui se prélèvent de ce qu'on appelle le contrôle politique, c'est-à-dire le politique s'autocontrôle lui-même. Le politique s'oblige à faire certaines choses qui sont obligatoires pour ce politique. Dans la mise en œuvre de ces choses, si ce politique ne le fait pas, ce sont ses collègues politiques qui doivent le sanctionner. C'est-à-dire que ce sont ses collègues politiques qui doivent prendre la décision de le sanctionner. Ça, c'est cette dimension telle que c'est prévu dans le règlement de l'intérieur, c'est-à-dire grosso modo, il faudrait qu'il y ait une plénière qui puisse décider de la démission du bureau, etc. Mais néanmoins, il y a une disposition que s'il y a des décisions, des actes administratifs qui sont posés par les organes administratifs de l'Assemblée, eh bien, ces actes administratifs peuvent être effectivement attaqués par les juridictions administratives. Ça étant dit, alors ici, la question, effectivement, on se rend bien compte que lorsque l'on lit la décision du Conseil d'État, effectivement, on reproche à l'honorable Puella de ne pas présenter, justement, un acte administratif, puisque, simplement, le Conseil d'État ne juge pas des opportunités, ne juge pas des faits, ne juge pas des lettres, mais juge sur les actes qui sont posés par une autorité administrative. Et dans le cas présent, est-ce que l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale a posé un acte administratif? La réponse, manifestement, par rapport au Conseil d'État, est non. Et surtout par rapport au référé, c'est-à-dire par rapport à l'urgence que l'honorable Puella a souligné. Et alors, l'honorable Luca fait valoir quand même toute une série d'arguments, notamment en disant qu'effectivement que le rapport avait déjà été déposé et qu'il a été adopté le 7 juillet de cette année, et en argumentant aussi le fait qu'on était dans un état d'urgence. Effectivement, lorsque vous lisez la Constitution et même le règlement d'intérieur sur ces questions-là, dès qu'il y a état d'urgence, le Parlement est obligé de pouvoir siéger. Le Parlement reste en train de travailler, puisque, comme vous le savez, l'esprit de la Constitution de ne pas laisser un état d'urgence un organe, vous savez, ici l'exécutif, travailler sans contrôle. Donc on oblige le Parlement à pouvoir rester en session tant que il y a état d'urgence. Et donc lorsque le Parlement est en session, ben il continue à travailler en étant, même s'il est en état d'urgence, il doit continuer à travailler comme l'oblige la Constitution et comme l'oblige son règlement d'ordre intérieur. Et donc si le rapport a été débattu et adopté pendant la période d'état d'urgence, c'est-à-dire pendant la session du mois de mars qui s'est prolongée pendant l'état d'urgence, effectivement, au niveau juridique et au niveau argumentaire, il n'y a pas lieu de pouvoir, entre guillemets, remettre en question que le rapport n'a pas été déposé et que le rapport n'a pas été discuté en plénière. Alors ça, vraiment, c'est ce que je peux dire pour essayer de clarifier un peu la question liée au contrôle politique et surtout au contrôle judiciaire avec, justement, l'aspect du contrôle administratif. Lorsque, je répète encore une fois, lorsqu'il s'agit essentiellement d'avoir un acte qui est posé par l'autorité, l'organe administratif. Le Parlement, le bureau, est un organe politique, mais aussi c'est un organe administratif parce que cet organe pose effectivement des actes administratifs. Est-ce que dans le cadre de ce qui a été entrepris, agit-il en tant qu'organe administratif? La réponse manifestement par rapport au Conseil d'État, c'est non. Je pense que c'est une décision qui va dans le bon sens et qui bien clarifie la part des choses qui entre d'une part le contrôle politique et d'autre part le contrôle judiciaire.
Merci. Allô? Professeur Bob, oui. Kabamba, vous garde encore dans cette émission. On va donner la parole aussi aux auditeurs qui sont nombreux à réagir au thème de ce soir. Albert Fabrice Pellin, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu Sud-Kivu.
Mouri Chombo de Bukavu Sud-Kivu. À mon avis, la démarche de l'honorable Fabrice Puella est inopportune car elle ne vise pas à toucher les problèmes sociaux de la population. Est-ce qu'il peut nous dire qu'est-ce que nous allons gagner comme peuple si les virus Mavunda tombent? En plus, est-ce que nous avons des garanties que si ces virus tombent, il ne sera pas remplacé par un autre qui va faire comme celui de Mavunda? Et dans ce cas, on aura remplacé un trou par un vide. Les peuples ont besoin d'une démarche sociale et non politique.
Albert Fabrice Puella.
Merci beaucoup. Je salue ces compatriotes qui me posent cette question. C'est mon peuple périt faute de connaissances. C'est vraiment dommage. Lorsque vous avez un bureau qui s'illustre par une opacité à outrance en ce qui concerne la gestion des finances publiques, des ressources de l'Assemblée nationale, comment pouvez-vous compter sur ce bureau pour justement exercer un contrôle rigoureux vis-à-vis des autres du gouvernement qui gèrent les ressources de l'État. Lorsque les bureaux de l'Assemblée nationale fait la main basse sur toutes les initiatives de contrôle parlementaire, je vous donne une illustration. J'avais, au mois de septembre, déposé une question d'actualité sur la recrudescence de la violence, de l'insécurité à travers les pays. Nous sommes dans une démarche républicaine, mais cette initiative n'a jamais été programmée. Nous avons adressé une question orale avec débat au Premier ministre pour qu'il vienne nous faire le bilan à mi-parcours du programme quinquennal pour lequel nous avons investi son gouvernement. Non seulement qu'on n'a jamais accusé réception, mais cette question n'a jamais été programmée. Un bureau comme celui-là, vous pensez que c'est un bureau sur lequel le peuple peut fonder sa confiance? Je pense que non. Et c'est là que je voudrais revenir sur les propos de mon
collègue. Soyez bref, Albert Fabius, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Oui, très brièvement, il faut retenir que M. Diken Kassongo est totalement à côté de la plaque. Parce que l'article 139, alinéa 6, ne parle pas du dépôt par les bureaux de l'Assemblée nationale. Il est clairement dit, à la fin de chaque exercice budgétaire, les bureaux présentent à l'Assemblée plénière un rapport complet de la gestion financière de l'Assemblée nationale. Il s'agit du français, ce n'est pas le Swahili. Mon collègue, Liken Kassongo, avec tous les respects que je lui dois, il est président de la première commission parlementaire, la commission PAJ. Je pense que les mots ont toutes leurs valeurs. Et c'est bon que le prof Kabamba y soit revenu. Il ne s'agit pas de déposer, mais c'est de présenter en plénière. Et puis, la commission spéciale dont il parle, elle est régie par l'article 140. Qui dit qu'au cours de la session ordinaire de mars, il est institué une commission spéciale de contrôle de gestion du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, cette commission spéciale n'a pas de lien avec les rapports qui est supposé avoir été présenté dans les mois et non analyser les rapports. Les rapports que dépose le bureau, il ne s'agit pas de ces rapports dont il est question. Les bureaux présentent. C'est après cette présentation qu'on institue la commission spéciale. Merci beaucoup au professeur Bob Kabamba qui l'a confondu. Hein. Et pendant le confinement, effectivement, nous étions en train de siéger. N'est-ce pas que c'est pendant le confinement qu'on prorogeait tout le temps l'état d'urgence? N'est-ce pas pendant le confinement qu'on a déchu M. Jean-Marc Aboun, premier vice-président, et encore qu'on a entériné la candidature de Ronsard Malonda à la présidence de la CENI? Donc c'était un faux fouillant. Et puis il ose dire que la lettre était bon que nous puissions éclairer la lanterne. Lorsque il y a une on parle d'un accusé de réception, on a dit nous accusons réception de votre correspondance de numéro et vous en remercions. Point. Lorsque Madame la questeur, non seulement accuse de réception, d'ailleurs, sa lettre commence comme ceci, les bureaux me chargent d'accuser réception de votre correspondance et de vous dire que les rapports ont été déposés. Donc, ce que vous évoquez a été vidé. C'est une décision. Ça veut dire quoi? Lorsque nous nous demandons au bureau de démissionner, lorsque nous demandons au bureau de démissionner et qu'on nous répond à ce terme-là, c'est une décision. La décision de l'administration prend plusieurs formes. Mais M. Liken Kassongo, lorsqu'il dit qu'une simple lettre ne peut pas, mais il oublie que la lettre en vertu de laquelle le Conseil d'État, le même Conseil d'État dont il salue l'œuvre aujourd'hui, c'est une base d'une correspondance.
Merci.
Notre ancien collègue Jean-Marc Aboun a fait sur soi un référé liberté.
Merci honorable Pouella. On va aussi laisser le temps aux autres co-débatteurs de pouvoir réagir aux réactions des auditeurs. Lucas Kassongo, on a Jean-Baptiste qui nous appelle depuis Loubero pour vous.
Jean-Baptiste à partir de Moubala à titre de Loubero au nord Kivu. À mon humble avis, le Conseil d'État n'a dit que le droit. Mais ce qui est paradoxal est de voir les membres du FCC se réjouir avec fracas. Alors, il nous parlait et parle encore de la République et des juges. La décision étant déjà rendue, nous conseillons à notre honorable Fabrice Pouella de supprimer et d'attendre patiemment la conclusion des consultations initiées par le chef de l'État, laquelle sera peut-être bénéfique pour la République.
Lucas Kassongo. Brièvement, comment vous répondez, vous réagissez au point de vue de cet auditeur qui nous a appelé depuis l'Obéro? Apparemment, nous avons perdu Lucien Kassongo. La réalisation, on va essayer de le rappeler. Mais en attendant, on va prendre pour vous, professeur Bob Kabamba, cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Fikiri Tchomba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. L'idée du député Fabrice Puela de poursuivre son action contre le bureau de l'Assemblée nationale, c'est une perte de temps inutile. Je me pose la question de savoir jusqu'à quand nos hommes politiques continueront dans la logique de théâtraliser la vie politique. Il était prévisible que cette action n'était qu'un simple coup d'épée dans l'air et c'était pour une consommation populiste et juridique. Les députés n'avaient aucun argument valable pour mettre en cause le bureau Mabunda en justice. Je me demande pourquoi n'a-t-il pas demandé les 10 rapports en plénière conformément au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Parce qu'il est dit que le bureau présente les rapports financiers en plénière selon les règlements.
Professeur Bob Kabamba.
Merci beaucoup pour la question, mais il faut vraiment souligner que ce n'est pas une perte de temps inutile que de la part de cet auditeur. Au fait, lorsque un député constate, il est élu par la population, il représente la nation, constate effectivement qu'il y a des problèmes dans son chef par rapport à la lecture qu'il fait, il va de soi, il doit faire son travail. Et je pense aussi, de mon point de vue, que ça fait aussi œuvre utile par rapport à la compréhension du fonctionnement des institutions au niveau de l'État. Par contre, je voudrais revenir aussi dans le même sens par rapport à la requête et aussi par rapport à la décision et par rapport à ce que vient de dire l'honorable Apuela en disant de manière très claire que dans la lettre, il est dit, donc la questeur répond à l'honorable Apuela en disant que le bureau me charge d'eux. Alors de vous faire part alors, de cette décision. Normalement, si l'honorable Puella voulait attaquer la décision, ce n'est pas la lettre de la questeur que devait joindre l'honorable Puella, mais plutôt la décision du bureau qui décide au moment où le bureau s'est réuni et qui a pris la décision de pouvoir ne pas démissionner ou bien de répondre de la façon dont ils ont répondu. C'est cette décision que normalement l'honorable Puella aurait dû chercher à pouvoir attaquer et pas nécessairement donc la lettre. Donc un, ce n'est pas une perte de temps inutile puisque ça fait œuvre de pédagogie par rapport au fonctionnement des institutions et ça contribue aussi à faire comprendre que bien que le bureau soit installé, ben, ce bureau continue d'être contrôlé aussi bien par les pairs, c'est-à-dire les autres députés, mais aussi il y a un contrôle juridictionnel, judiciaire, comme je l'ai dit, des différents actes que ce bureau peut poser. Alors, vous précisez effectivement que s'il y a une décision qui a été prise par le bureau, et c'est cette décision-là, je m'en prenais mon point de vue, que l'honorable devait présenter, et pas la lettre qui lui fait part d'une décision qui a été prise par le bureau.
Alors, professeur Bob Kabamba, le Conseil d'État a rendu son verdict. Malgré cela, le député Albert Fabrice Puela dit qu'il va réfléchir avec son conseil sur d'autres moyens à développer. Et qu'est-ce que vous pensez de l'idée du député Puela de poursuivre son action? Est-ce que vous pensez que ça pourrait aboutir à quelque chose?
Ben, je pense que vraiment, en tant que député, il va de son chef, de son droit de pouvoir user de tous les moyens qu'il juge s'il pense que la réponse du Conseil d'État ne lui satisfait pas et qu'il puisse étudier d'autres moyens. Ben, je sais que je lui dirai qu'il y a des moyens politiques qu'il peut utiliser de manière très claire, de manière politique, qui sont prévus dans le règlement d'ordre intérieur, c'est-à-dire recourir à ses pairs, c'est-à-dire recourir à ses collègues députés, pour essayer d'avoir des décisions qui sont favorables à ce que lui juge comme violation des textes. Par ailleurs, s'il pense qu'il peut revenir sur une action juridictionnelle contre une décision du bureau qui ne respecterait pas les textes, alors il faudrait qu'il ait cette décision et que c'est cette décision-là qu'il pourrait faire l'objet justement d'une requête au niveau de juridiction administrative. Donc il y a encore cette deux possibilités, donc le recours, le contrôle politique, mais encore il peut revenir à nouveau sur, s'il s'agissait d'un référé, il peut revenir donc, sur le contrôle juridictionnel sur le même objet.
Merci beaucoup, professeur Bob Kabamba. On va considérer cela comme votre conclusion. Lucien Kiasongo, député national et secrétaire permanent adjoint du PPRD, président de la commission PNJ à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de l'idée du député national Fabrice Pella de poursuivre son action contre le bureau de l'Assemblée nationale?
Merci, madame. Et notre collègue est en train de s'embrouiller inutilement au lieu de se calmer. Et je pense que c'est un homme, il n'est pas désarmé, et si bien qu'il sait qu'il n'aura plus rien à espérer. Et la Cour ne peut pas se prononcer sur une lettre, la Cour ne peut se prononcer que sur une décision qui porte préjudice aux intérêts de quelqu'un, mais dans le cas d'espèce, il n'y a jamais eu une décision. Il n'y a jamais eu préjudice, donc il n'y a pas intérêt et la Cour n'a pas qualité de statuer sur les lettres.
Merci, Lucien Kassongo, Albert Fabrice Pouella. Jusqu'où comptez-vous aller?
Merci beaucoup. D'abord, il est important de savoir que les référés et irrécevables sont l'action principale. Et l'action principale, pour l'action principale, le Conseil d'État n'a pas encore vidé sa saisine. S'il est important de savoir que la décision administrative n'a pas une forme précise dans une correspondance, dans un arrêté, dans une décision, ce sont des actes administratifs qui sont attaquables. Et il est important, le mérite justement de l'ordonnance de juge, c'est de savoir que désormais, et tous les Congolais devront le savoir, que le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas une forteresse attaquable, que tout le monde peut être attaqué en justice, tout le monde peut être attaqué devant la justice, et c'est ça le mérite. Donc, notre action principale demeure et nous entendons la poursuite jusqu'à vider la saisine de la juridiction, la haute juridiction administrative.
Merci Albert Fabrusuela, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Mathé, Dona Matimba qui m'ont aidé à préparer pour cette émission. Merci à Bob Landou qui est à la mise en onde, présentation et coordination, Kéline Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.